Bonjour, bonjour et bienvenue dans Histoire de Savoir sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans Europolis, Thomas Gesselings au micro. Aujourd'hui, nous allons parler de demain.ulb.be. Vous allez voir. Ici, c'est l'ULB, c'est notre université libre, vivante, en mouvement. Ici, les libertés grondent, on ose, on propose. Apprendre autrement, décloisonner les savoirs, comprendre, débattre, donner du sens. Ici, on pense les bouleversements et les défis. Le monde change, nous aussi. Ici, notre intelligence est collective. Ici, on ne subit pas le changement, on l'incarne. Prenez part au mouvement, participez aux assemblées libres. Ici commence demain. Voici le manifeste de ULB, demain ULB, demain.ulb.be, ça pour avoir plus d'informations. Face aux multiples défis auxquels elle est confrontée, l'Université libre de Bruxelles lance jusqu'au 27 février 2026 un sondage pour donner un avant-goût de ce que seront les assemblées libres, un vaste processus de consultation ouvert à l'ensemble de la communauté universitaire, avec pour objectif de transformer des tensions qui peuvent exister au sein de l'université en chance, en opportunité, comme on dit, et penser collectivement l'avenir de l'université. Les assemblées libres ne sont ni un cahier de doléances, ni une procédure de plus, hein, mais c'est une invitation véritablement à imaginer l'université de demain et à agir. Ici, dit encore le manifeste, l'avenir ne s'impose pas, il se construit. Toutes sortes de bonnes idées, bonnes initiatives, bonnes intentions qui vont être mises en place par ce processus de ULB demain. Je vous rappelle que pour en savoir plus, vous pouvez aller sur internet demain.ulb.be. Et pour nous en parler aujourd'hui, pour essayer d'y voir un peu plus clair, nous avons invité Noah Boundoula. Noah Boundoula, son nom ne vous dit peut-être rien, mais pour ceux qui sont habitués aux réseaux sociaux, le nom d'Askip est peut-être un peu plus clair. Hein. En fait, c'est un étudiant à l'IEX en deuxième année de communication qui a été recruté par l'ULB comme externe pour doper un peu ce programme de consultation d'assemblée libre et populaire au sein de l'Université libre de Bruxelles, demain.ulb.be. Il est assez actif sur Instagram et TikTok pour ne citer que ces réseaux sociaux-là. Et il va nous donner son avis, son point de vue sur la manière dont l'ULB lance ses assemblées libres pour qu'un processus de co-construction et de nouvelles décisions et de recommandations puissent à terme naître et germer de tous côtés et puis peut-être poindre dans l'esprit des décideurs de l'université, du conseil d'administration ou du rectorat. Voilà, la parole à Noah Boundoula alias Askip dans quelques instants. C'est l'ULB, c'est notre université, libre, vivante, en mouvement. Ici, les libertés grondent, on ose, on propose apprendre autrement, décloisonner les savoirs, comprendre, débattre, donner du sens. Ici, on pense. Ici, les bouleversements et les défis, on les connaît. Le monde change, nous aussi. Ici, notre intelligence est collective. Ici, on ne subit pas le changement, on l'incarne. Prenez part au mouvement, participez aux assemblées libres. Ici, commence demain. Voici le manifeste des assemblées libres de l'Université libre de Bruxelles. Vous pouvez retrouver ce manifeste sur demain.ulb.be. Et pour en parler, on a un invité en studio, Noah Boundoula. Bonjour.
Bonjour.
Noah Boundoula, parfois mieux connu sous le nom de Askip.
Tout à fait, tout à fait.
Il dira pas mal de choses aux habitués de TikTok, Instagram ou d'autres. Vous êtes un créateur de contenu sur des réseaux sociaux ?
Oui, tout à fait, un créateur de contenu sur les réseaux qui parle d'actualité belge, internationale. Et donc voilà, c'est tout naturellement que cette campagne s'inscrit un petit peu dans la ligne de ce que je fais déjà.
Voilà, alors pour parler de l'avenir de l'ULB, on a été chercher un étudiant en deuxième année de communication de l'IEX. Vous êtes donc externe à l'ULB.
Tout à fait.
Ça vous honore ou ça vous étonne ?
Je pense que ça m'honore, ça m'étonne. Je ne sais pas trop comment me positionner là-dessus, mais je pense que je pars du principe aussi où on m'a pris. Bien sûr, je suis étudiant, mais je pense pas qu'on m'a pris forcément parce que je suis étudiant. On m'a pris comme créateur de contenu. Par exemple, la deuxième créatrice de contenu qui travaille avec moi, Mademoiselle Laure, pardon, elle n'est pas créatrice de contenu. Elle est dans le monde du travail. Donc voilà, ça m'honore plutôt parce que je trouve ça assez cool de pouvoir participer à ce genre de mouvement. Même si je ne suis pas dans l'ULB, c'est pas moi qui vais participer au sondage, c'est pas moi qui vais participer aux tables rondes, mais quelque part promouvoir ce système, ce processus-là, franchement, ça me fait assez plaisir.
Alors c'est quoi ce processus? Ce processus qui va constituer en des tables rondes, un premier sondage auquel les étudiants, tous les membres de la communauté universitaire de l'Université libre de Bruxelles sont susceptibles de répondre, je disais, des tables rondes, des assemblées libres, et puis un processus décisionnel derrière. Expliquez-nous un peu en quoi consiste ce projet demain ULB.be.
Alors les étudiants, les professeurs et les chercheurs de l'université ont pu apercevoir à travers toute l'université les nombreux QR codes qui ont pu être affichés ici et là. En tout cas, c'était une invitation à répondre au sondage sur le site demain.ulb.be qui est encore accessible. Et donc ce sondage permet tout simplement à tous les membres de l'ULB, comme je l'ai dit, que ce soit des professeurs, des chercheurs ou des étudiants, à tout simplement soumettre leurs idées, leurs envies, leurs besoins, ce qu'ils ont besoin de changer tout simplement au sein de leur université pour pouvoir tout simplement être encore plus serein, plus tranquille dans leur environnement de travail. Ensuite, après cette étape du sondage, nous avons les tables rondes où nous allons essayer de rassembler tout le monde et pour que chacun puisse développer ses idées. On veut vraiment mettre en avant ce processus d'intelligence collective où bien sûr chacun, à la base, chacun a des idées, mais si on se rassemble, si on met nos idées au commun, ça peut déboucher vers de nouvelles idées. Et c'est ça aussi qu'on veut mettre en avant parce que on estime que, on est même sûr que tout le monde, tous les professeurs, on ne sait pas, mais beaucoup de professeurs, beaucoup de chercheurs, beaucoup d'étudiants ont certainement des choses qu'ils ont envie de changer au sein de leur université. Si leurs idées sont mises en commun avec d'autres idées, on pourra aboutir à de très belles choses. Et puis après, bien sûr, il y a les assemblées libres et le but vraiment, c'est de pouvoir proposer de nouvelles choses auxquelles la direction, le rectorat n'aura peut-être pas forcément pensé et ça pourrait faire en sorte que voilà, si ces idées-là sont reprises, eh ben ça pourrait faire en sorte que on retire un petit peu peut-être cette frustration qu'il peut y avoir du côté de certains membres de l'ULB parce que voilà, si il y a des personnes qui ont des besoins ou des envies, c'est qu'il y a peut-être parfois aussi une frustration qu'on veut essayer du coup d'effacer en écoutant et en essayant d'appliquer leurs idées.
Redonner un peu de potentialité à la voix de chacun au sein de l'université qui
compte
plusieurs milliers de membres, on le sait bien. Vous parliez il y a un instant, Noah, de ces QR codes légèrement inclinés où il est marqué « Ici on ose » par exemple, sous-titre « ULB demain ». Je rappelle par rapport à cette initiative demain.ulb.be que vous pouvez aller retrouver. Répondre au sondage qui prend 6 minutes, a priori, top chrono. Mais surtout, ça c'est l'amorce de quelque chose de plus grand, avec à terme sans doute des idées qui vont émerger et qui pourraient, comme vous le disiez il y a un instant, être forgées en décision par les autorités académiques, encore qu'il n'y ait pas d'obligation, mais en tout cas, il y a un processus qui va être suivi de près, parce que c'est à l'initiative des autorités académiques que ce mouvement a été lancé. Pourquoi ce mouvement semblait tellement important à mettre en place aujourd'hui?
Alors, je pense que, je ne suis pas la direction, mais je pense que la direction voit quand même que il peut avoir parfois un écart entre eux et les étudiants, certains professeurs, certains chercheurs. Et je pense que par-delà ce processus, il y a aussi une volonté quand même de rapprocher les membres de l'ULB de leur direction, de leur montrer qu'en fait, tout n'est pas forcément que vertical, même si bien sûr le modèle de l'université est vertical, il y a une autorité, il y a des étudiants, il y a des professeurs, mais voilà, l'université veut montrer aussi que ce ne sont pas uniquement eux qui savent tout et qui décident pour les autres. Il y a aussi David Van Reybroek qui est chercheur et historien qui travaille avec nous sur ce projet et qui au sein de divers dialogues avec lui, on a aussi compris que aujourd'hui le modèle vertical ne fonctionne plus très bien, mais c'est pas qu'il fonctionne plus, mais c'est qu'il a des lacunes en tout cas. Et le rectorat, la direction l'a très bien compris, et c'est pour ça qu'ils initient ce projet-là, parce que justement, on peut pas essayer de promouvoir l'intelligence collective si on veut rester dans un modèle 100% vertical où il y a une direction qui décide pour les autres. Je pense que ça fait partie des volontés de l'université en initiant ce projet.
Intelligence collective, hein, le mot est lancé. Oui. Co-construction aussi, disiez-vous tout à l'heure, Noah. C'est quoi ? C'est un peu des notions très à la mode aujourd'hui, mais il faut encore les appliquer, les mettre en pratique. C'est pas toujours aussi simple.
Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que la direction a un travail qui va être assez spécial et particulier. Et justement, c'est courageux de pouvoir initier ça, parce que bon nombre d'écoles, hautes écoles, universités, peut-être ont du mal encore à se remettre en question. Et aujourd'hui, c'est ça quand même qui est assez important, la remise en question qu'initie la direction est tout à fait quelque chose qu'on peut saluer. Mais maintenant, bien sûr, il y a les idées de chacun qui doivent être proposées et qui, je l'espère, si elles sont bonnes, seront appliquées.
Voilà, de chacun et de chacune, dans une réflexion intime ou partagée. Donc, on l'a dit, plusieurs dates à retenir au cours de ce processus. Ça a commencé le 9 février et jusqu'au 27, c'est l'étape numéro 1, celle des sondages dont on a déjà parlé. Il suffit d'aller sur ulb.demain.ulb.be et vous aurez accès directement au sondage. Il est très facile d'y répondre. Ça, c'est vraiment l'amorce. Ouais. Ensuite, il y a une date à retenir, c'est le 10 mars. Le 10 mars, d'ailleurs, sachez que pas mal d'activités et de cours même sont suspendus sur le territoire de l'Université libre de Bruxelles, pour permettre aux étudiants, entre autres, de participer à ces tables libres. C'est une journée pour dialoguer et formuler des propositions. Comment ça va se construire, cette fameuse journée du 10 mars entre 10h et 17h ?
Alors, malheureusement, je ne serai pas dans ces tables rondes. Mais donc voilà, c'est sûr que l'idée est tout simplement de pouvoir convier chacun à pouvoir se rassembler. Là, par exemple, j'ai vu l'Assemblée libre de Radio Campus, par exemple. Donc ça, c'est exactement un petit peu même si voilà, je ne peux pas trop illustrer parce que nos auditeurs n'ont pas pu voir, mais ça va être un petit peu comme ça, quoi. Chacun va se rassembler. Il y a les professeurs, il y a les étudiants, et ils vont tous un petit peu soumettre leurs idées qu'ils ont pour pouvoir tout simplement apporter un plus à l'université, tout simplement.
Ok, et quand est-ce qu'on arrive au processus des assemblées libres à proprement parler alors ?
Pardon ?
Les assemblées libres, c'est quoi alors à ce moment-là ?
Alors les assemblées libres, tout simplement, ce sera le moment où là on va essayer un petit peu de défendre chacune des idées, et donc là après maintenant ce sera faudra voir si ces idées-là seront acceptées ou pas par la direction. Donc mais c'est un processus qui prendra du temps. Il y a des idées qui, j'imagine, sont des idées plus difficiles à appliquer que d'autres, et surtout voilà, j'ai pas d'exemple à donner parce qu'aussi dans la campagne, ce qu'on veut éviter, c'est de pouvoir induire un petit peu chacun à proposer certaines idées plutôt que d'autres. On veut vraiment laisser tout le monde pouvoir avoir ses propres idées et les défendre, parce que tout simplement, je pense que les induire pourraient déjà influencer un petit peu à ce qu'on propose plus certaines idées plutôt que d'autres, et ça, c'est ce qu'on veut éviter.
Voilà, table libre le 10 mars, une date à cocher dans son agenda si on veut essayer de faire bouger l'université vers quelque chose de différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, parce que ce qu'on lit quand on va sur demain.ulb.be, c'est « Face aux multiples défis auxquels est confrontée l'Université libre de Bruxelles, les assemblées libres sont mises en place à partir de ce 9 février, comme je le disais. » Qu'est-ce que ça veut dire, ces assemblées libres ? C'est un vaste processus de consultation ouvert, comme vous le disiez, Noah Boundoula, il y a un instant, destiné à l'ensemble de la communauté universitaire pour transformer ces tensions en opportunités, et penser collectivement son avenir. Ces tensions, c'est quoi, selon vous ?
Ces tensions, c'est beaucoup de choses. L'ULB est une université où il se passe tellement de choses, où on a vu parfois des moments de désaccord entre certaines sections. Par exemple, j'ai pas d'exemple à donner directement, mais parfois des sections où il y a des conflits avec des professeurs, entre élèves et professeurs. Parfois, c'est entre professeurs et direction. L'université, on le sait, est parfois une université où il y a pas mal de conflits. Et quand on n'est pas écouté, parfois on est frustré. Et donc, le but aussi de ces assemblées libres, justement, pardon, c'est de calmer les tensions en écoutant, et peut-être bien sûr, parce que ça reste quand même une supposition, et aussi en appliquant ces idées-là. Parce que voilà, quand on dit que l'ULB est une université où il y a des tensions, c'est vrai, mais je pense qu'écouter les idées que chacun a proposées et peut-être les appliquer pourrait grandement, je pense, aider à calmer ces tensions.
Alors, des problèmes de cuisine interne au sein de l'ULB, il y en a, mais aussi parfois des problèmes d'actualité qui s'invitent au sein
tout à
de
fait,
l'université.
Tout à fait.
Les exemples sont légion, parfois des conflits régionaux qui s'invitent au sein même de la réflexion même de l'université. Ouais. C'est des sujets qui peuvent être abordés.
Quand vous dites conflits régionaux, vous dites...
Ah ben, je ne sais pas, des problèmes... Il y a des cercles aussi qui ont des objectifs précis et qui sont parfois en opposition les uns avec les autres. Ça crée parfois des petites tensions.
Bien sûr.
Que c'est des choses dont on va pouvoir parler aussi au-delà de l'aspect simplement pratique.
Ah non, non, ça fait des choses dont...
De l'organisation des cours.
Ça fait partie... Ah non, bien sûr, parce que ça fait partie des choses dont on doit parler parce que ce dont on entend le plus parler à l'extérieur quand on n'est pas de l'ULB, c'est vraiment de ça.
Ouais,
ça. Oh, il y a eu tel événement...
lié à la crise de l'exil, par
tout
exemple,
à
lié à des problématiques au Moyen-Orient, bien entendu.
Exactement. Ouais. C'est de ça, moi, en tant qu'externe de l'ULB, c'est de ça dont j'entends le plus parler. Mm-hmm. Donc, ce serait vraiment très dommage de passer à côté de ça parce que c'est vraiment... Bien sûr, les problèmes de cuisine interne, comme vous dites, sont hyper importants parce que ça participe au bon déroulement de la vie étudiante ou bien en tant que professeur ou en tant que chercheur. Mais c'est ces problèmes-là que vous évoquez, qui sont d'ordre plus régionaux, sont hyper importants. Et aujourd'hui, on doit vraiment... Enfin, je dis on, encore une fois, je ne suis pas à l'ULB, mais aujourd'hui, il est important de mettre ces problèmes-là sur la table parce que beaucoup de frustrations viennent de là.
Oui, bien sûr. Et c'est l'initiative qui vient d'en haut. Vous parliez d'horizontalité plutôt que de verticalité. Il n'en demeure pas moins que c'est les autorités académiques qui ont lancé ce projet. Et c'est elles qui, parfois, sont un peu sur la sellette aussi par rapport à la résolution de tensions, de conflits qui pourraient surgir au sein de l'université.
Oui, tout à fait. C'est sûr que parfois, il y a eu des moments où, par exemple, je pense à l'occupation pour la Palestine, où il y a pu avoir des attaques envers la direction. Je pense qu'aujourd'hui aussi, le but de ce projet est quand même de réinstaurer un certain dialogue plus constructif, moins dans les invectives, moins dans où on s'envoie des piques à gauche, à droite. C'est ça aussi que je pense que l'ULB veut restaurer, un côté plus débat constructif, quoi.
C'est ça qui... Pacifié.
Tout à fait, pacifié surtout, parce que malheureusement, voilà, il y a eu des moments où on a pu observer parfois des violences, etc. Et ces violences viennent aussi d'un, comme je l'ai déjà dit, d'une certaine frustration. D'une frustration de ne pas être écouté, de ne pas être entendu. Et je pense que en écoutant les différentes idées-là, il y a cette frustration qui va peut-être se calmer. Alors, je ne dis pas disparaître parce qu'on n'est pas à la place de chacun, mais je pense que ce processus-là peut aider à diminuer les violences si toutefois il est bien appliqué.
Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. En tout cas, moi, j'ai...
Je me suis dit que vous étiez peut-être ouvert à la discussion.
Je ne suis ni étudiant, ni prof...
Vous voulez vraiment être entendu ? Attendez, on arrive.
En 5 ans, le nombre d'étudiants a augmenté de 35%. Les infrastructures sont sous pression, les équipes sont débordées, les budgets se resserrent, et vous le savez mieux que moi, la communauté universitaire a beaucoup de choses à dire. Face à ces constats, l'ULB lance un grand projet démocratique, et ça s'appelle ULB Demain.
Un projet dans lequel chaque étudiant, chercheur, professeur ou membre du personnel administratif et technique peut s'engager.
L'objectif, c'est de construire concrètement le futur de l'université et pas juste dans les détails. Tout est à imaginer.
Alors, comment ça va se passer ? Première étape, un grand sondage pour identifier les enjeux majeurs et les impressions générales sur la situation à l'ULB. Deuxième étape, des tables libres pour discuter de ces enjeux en profondeur. Et enfin, l'Agora des possibles qui prendra le temps de se pencher sur chacune des problématiques pour trouver des solutions et des pistes de changement. L'idée, c'est de sortir de ce processus collectif avec une grande feuille de route et plein de recommandations que l'ULB s'engage à écouter, mais aussi à mettre en œuvre autant que possible. Vous pourrez ensuite suivre la mise en œuvre de ces recommandations sur une plateforme dédiée qui sera mise à jour au fur et à mesure.
Toutes les idées sont bonnes à prendre, toutes les questions sont bonnes à poser.
Par exemple, pourquoi l'ULB devrait écouter ce que les gens ont à dire ?
Tant qu'on fait tout de façon verticale, on rate beaucoup de choses. On rate toute une série des idées, des perspectives qui ne sont pas prises en compte. Il y a une richesse qu'on ne tape presque jamais, et c'est l'intelligence collective. Il y a des questions ici, il y a des réponses là-bas, mais ils ne croisent pas. Et c'est pour ça que l'université doit vraiment écouter sa propre communauté.
Noa Boundoula, vous disiez tout à l'heure, si on se promène sur le campus, on voit les affiches, hein, elles sont assez reconnaissable, un grand QR code, pardon, QR code, quel lapsus, si c'était vrai, un grand QR code entouré de bleu, les couleurs de l'université, ouais. Avec quelques slogans, le principal c'est « Ici, on ose quoi ?» On ose débattre et se remettre en question, c'est ça ? C'est le libre examen, mais dans son acuité pratique.
On ose débattre, se remettre en question et changer certainement, parce que ce serait quand même dommage si à l'issue de ce processus, il n'y ait aucun changement, vu les nombreuses idées que chacun va proposer, il y aura d'office des changements si ce processus est bien appliqué.
Alors allons à son terme, ou imaginons son terme, donc après que chacun ait pu s'exprimer à travers table ronde, assemblée libre et tout le processus. Il y a une proposition qui va être faite aux autorités académiques. Ouais. Elles vont pouvoir ou pas en tenir compte, mais a priori, il serait de bon ton qu'elles jouent la carte de la franchise par rapport au processus. Il y a aussi l'Agora des possibles. C'est un panel d'environ 50 personnes qui seront tirées au sort. Mmh. Et pendant 3 journées, elles vont essayer d'aboutir à des recommandations qui seront données donc, aux autorités académiques. Ouais. On les attend un peu au tournant pour savoir quand même qu'est-ce qui va sortir et émerger de ces consultations et de ces recommandations.
Tout à fait, 50 personnes, c'est pour ça qu'on en tire autant, parce que c'est une grosse responsabilité quand même. Et le rôle de ces 50 personnes-là sera d'écouter, de prendre en compte tout ce qui aura été dit avant. Bien sûr, il y aura une sélection, il y aura tout ce qui aura été dit ne sera pas pris en compte, mais le but de ces 50 personnes-là est de proposer des choses assez concrètes. Et donc, c'est là où leur rôle est déterminant. Donc, j'espère que ces 50 personnes-là qui seront tirées au sort vraiment prendront conscience de leur rôle qui est assez déterminant dans l'avenir de leur université.
Voilà, et ça, c'est les 28 mars, 11 et 18 avril que cette Agora des possibles se mettra en place. 50 personnes, je le rappelle, Noah Boundoula, tirées au sort. Pourquoi ce tirage au sort ?
Pourquoi ce tirage au sort ? Parce que je pense que prendre, par exemple, de grands professeurs qui ont beaucoup d'influence au sein de l'université, ce serait aller un petit peu contre le message même de ces assemblées libres, de ces tables rondes, où on veut vraiment essayer de donner de la voix à des personnes qui pensent que leur voix n'est pas légitime. On sait, comme je l'ai dit, pour les professeurs qui ont une certaine réputation, alors c'est super cool, heureusement qu'ils sont là, mais justement c'est peut-être parfois à cause de ça que certains étudiants ou même d'autres professeurs qui ont un petit peu une plus petite réputation, c'est à cause de ça qu'ils se disent
non,
que
pas la voix au chapitre.
C'est ça, c'est pour ils se disent que peut-être bon OK, il y a tel, il est peut-être mieux placé que moi, donc je verrai pas pourquoi je vais apporter ma voix. Non, c'est une manière de dire OK, tout le monde a la possibilité de pouvoir changer les choses. Et donc si on donnait la possibilité uniquement à des personnes de grande renommée à participer à l'Agora des possibles, ce serait un petit peu contre-productif, je pense.
Ok, alors le tirage au sort, on le connaît dans les grands procès d'assises. Voilà. Oui. Aujourd'hui, c'est à mon avis le seul exemple probant qui existe sur le tirage au sort. On va chercher des citoyens justement pour qu'il y ait un panel le plus large possible et qu'il ne soit pas préconstitué. Mais la question se pose depuis un moment. Pas mal de chercheurs travaillent sur cette question-là, même dans une volonté de restimuler la démocratie. Quand je parle de démocratie, c'est la démocratie politique au sein de notre pays. Et il y a des gens pour qui ce serait une solution pour redynamiser un peu le processus politique au sein des démocraties. C'est ce que vous pensez aussi ?
C'est assez intéressant et je pense que c'est quelque chose à développer. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, nos démocraties occidentales sont en crise. On le voit aux États-Unis, on le voit même ici en Belgique, où on a mis beaucoup de temps à former un gouvernement bruxellois. Donc c'est sûr qu'il y a ce problème de crise démocratique et je pense que c'est à peu près pour les mêmes raisons que ce qui se passe à l'ULB. On a des ministres, on a des ministres-présidents, plein de personnes qui sont très haut placées. D'autres, on a l'impression, en tout cas pour certains citoyens, qu'ils sont un petit peu déconnectés de la réalité, déconnectés des vraies choses. Par exemple, si je prends le cas du ministre-président bruxellois Boris Dillies, qui a eu du mal en néerlandais dès qu'il est entré en fonction. Moi, j'ai fait une vidéo sur ça, par exemple, sur mes réseaux sociaux, et il y a un commentaire qui m'a assez interpellé et que j'ai trouvé assez juste. Cette personne-là me disait, mais attends, lui, il est ministre-président bruxellois, région capitale bilingue. Et nous, parfois, quand on cherche un job, on nous demande d'être bilingue français-néerlandais et on nous refuse des jobs à cause de ça. Et justement, il y a ce truc de privilège aussi parfois, que certains trouvent un peu injuste. Et donc, je pense que aujourd'hui, il y a du côté des politiques aussi, il doit avoir cette envie de pouvoir mieux écouter les personnes qui sont dans la population ici, enfin qui sont dans la vie active, qui travaillent ou bien qui ne travaillent pas. Enfin, il faut écouter, je pense, les gens qui vivent vraiment la réalité de la vie, si je puis dire ça comme ça, pour qu'ils puissent tout simplement se rendre compte que, ah, ok, j'ai pris telle mesure, ça aura tel impact. Parce que je crois aussi qu'il y a ce truc où, quand certains politiciens prennent des mesures, ils ne se rendent pas compte de l'impact réel que ça a. C'est pour ça qu'il y a des manifestations, c'est pour ça qu'il y a des protestations. Je pense qu'aujourd'hui, il y a... les politiciens ont besoin de pouvoir se rendre compte de l'impact et des décisions qu'ils prennent, tout simplement.
Noah Boundoula, oui. Ou à Skip
ça dépend. En tout cas, dans le cadre de ULB Demain, je suis à Skip, ça c'est sûr, parce que je suis créateur de contenu qui va promouvoir un projet ici. Même quand je viens vous parler, je viens en tant qu'à Skip. Mais c'est sûr que voilà, c'est une question qu'on peut parfois se poser. Par exemple, je suis là, si je devais vous parler de cette dualité un petit peu. Par exemple, là maintenant, je suis chroniqueur à l'RTBF dans une émission le 6-8, une émission matinale. Et là, je suis plutôt Noah Boundoula, par exemple, okay. Parce que je viens pas parler.
Mais ça va, ce côté schizophrénique, ça vous convient?
Franchement, ça va, je vis bien avec ça.
Mais okay. Askip, ça s'écrit A-S-C-K-I-P-E. A-S-C-K-I-P-E, on a compris l'allusion, évidemment. Ouais. Vous avez donc des followers, des gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, principalement. C'est quoi votre volume de publication?
Mon volume de publication, alors, il est assez variable, mais je publie en général une fois par jour ou une fois tous les deux jours. Sur Instagram une fois par jour d'office, au minimum en tout cas, parce que je fais aussi des visuels. Donc il y a des vidéos, format court, vertical, mais il y a aussi des visuels sur certains sujets d'actualité qui sont divers et variés. Des fois c'est vraiment très informatif et des fois c'est un peu plus divertissant, on va dire. Mais le domaine principal reste quand même l'actualité en général.
Voilà, et si vous ne connaissez pas Askip alias Nicolas Boundoula ou l'inverse, vous pouvez simplement déjà dans un premier temps aller sur le site de demain.ulb.be et vous verrez la vidéo qu'il a réalisée pour lancer l'opération. On l'a dit, il y aura des résultats, synthèses et documentations seront mis à la disposition de tout le monde une fois le processus terminé. Et donc là aussi, il y a une possibilité d'aller suivre, pas pour l'instant parce qu'on n'a pas commencé, mais il y aura possibilité d'aller suivre les résultats. Et puis, il y a aussi l'engagement de l'ULB. Hein. L'ULB s'engage, ça c'est vraiment une devise qui tient très très fort à cœur à l'Université Libre de Bruxelles depuis pas mal d'années. Hein. Il y a même une association, une ASBL qui porte ce nom, ULB Engagé, qui se trouve juste en dessous des locaux de Radio Campus, entre parenthèses, voilà, ça c'est pour l'anecdote. Et l'ULB s'engage ici via le manifeste, via une charte d'engagement qui définisse les règles et les principes auxquels elle s'engage et nous engageons collectivement. C'est important ça, que les règles soient tout à fait transparentes et claires dès le début.
Tout à fait, parce que justement, si elles sont transparentes et claires dès le début, c'est qu'elles soient assumées. Et donc c'est le plus important surtout. Donc oui, bien sûr, c'est hyper important pour que chacun puisse se rendre compte, puisse aussi peut-être parfois les remettre en question ou voilà quoi. Donc c'est important qu'elles soient bien transparentes. Oui.
Mmh. Ok, très bien. Et puis sachez aussi que la communauté universitaire dans son ensemble est appelée à participer à ce processus. Les anciens étudiants aussi, une fois de plus. Les générations, l'une et l'autre, peuvent s'apporter réciproquement des idées neuves.
Oui, tout à fait, parce que il y a aussi leur manière. Pour les anciens étudiants, ils ont vécu leurs études de leur manière. Peut-être qu'il y a des choses qu'ils voulaient changer, mais qu'ils n'ont pas forcément, pu en faire part. Et peut-être qu'ils constatent aussi que ces choses-là en question n'ont toujours pas changé. Et donc c'est comme ça qu'ils pourraient, par exemple, aussi apporter leur pierre à l'édifice, au projet. Donc voilà, c'est toujours. Et puis aussi, les anciens sont dans la vie active, sont dans le monde du travail. Ils ont peut-être certaines choses qu'ils voient, que les étudiants ne voient pas encore et qui pourraient tout simplement aussi apporter peut-être par rapport au cursus, par exemple, au cursus à proprement parler. Je sais pas, vous faites tel métier et vous voyez que quand j'étais étudiant on m'a pas appris ça, ça peut être un exemple aussi pour revenir sur le côté plus court. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait, et je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas être négligé, loin de là.
Alors, on parlait de la charte qui engage l'ULB à rendre compte des suites données aux recommandations. Et il y a des externes, vous en êtes, ouais, mais vous n'êtes pas la seule. Il y a un comité d'accompagnement qui réunit les représentants du G1000 et de Dreamocracy. Vous savez un peu de quoi il est question ?
Alors là, eux, ils s'occupent plus vraiment de la partie sondage. Mais malheureusement, je suis pas avec eux. Je suis plus dans le côté promotion de...
Mais en tout cas, ce sont des garanties de transparence qui veilleront à la neutralité du dispositif. Parce que quand même, il ne faut pas avoir l'impression que c'est une coquille vide. Mmh. Et à la pertinence des méthodes. Hein, méthodes dont on a parlé avec vous, Noah Boundoula, il y a un instant. Est-ce que... Les gens, en fonction de leur temps, peuvent participer à l'une ou l'autre activité. On n'est pas obligé de, une fois qu'on s'est engagé, suivre tout le processus.
Non, déjà, le sondage, c'est le truc vraiment le moins engageant qui puisse exister. Hein. C'est un sondage, bon, pas comme n'importe lequel, mais en général, quand on fait un sondage, on s'engage pas forcément pour toute la durée du processus. Mais c'est quelque chose qu'on encourage quand même. Pour suivre tout ce qui va être proposé. On ne veut pas non plus faire passer comme message que ce n'est qu'un sondage, allez-y, répondez-y, puis après, voilà. On veut aussi que quand même les étudiants se sentent vraiment concernés par tout ce qui va se passer pendant ces prochaines semaines, pendant ces prochains mois, avec du coup l'Agora des possibles, les tables rondes, qui auront lieu un petit peu plus tard.
Voilà, jusqu'au 27 février, vous pouvez répondre sur demain.ulb.be à ce sondage. Votre voix compte 6 minutes pour prendre la température et définir les sujets prioritaires qui vous animent, que vous avez envie de co-construire avec d'autres. Après, si vous voulez, continuer le processus au cours de ces tables rondes et des assemblées libres, bien sûr. Tout ça, c'est jusqu'au 18 avril. Et puis les propositions de ce panel de 50 personnes tirées au sort, comme on le disait. Et puis les recommandations faites aux autorités académiques qui ne seront pas contraignantes. Oui. Mais enfin, soyons clairs, si on lance un processus comme celui-là, on a quand même intérêt à tenir compte.
Tout à fait. Ah oui, c'est ça. Il en va de la crédibilité du projet dans lequel, quand même, l'ULB REC, à travers une campagne de com, a mis de l'argent aussi. Mmh. Vous ne pourrez pas se mentir. Mmh. Donc, il y a ça aussi qui rentre en compte. Je ne pense pas que l'ULB va commencer à jeter de l'argent dans une campagne pareille, qui doit coûter certainement, mais je ne connais pas les prix, pour au final n'obtenir rien. Enfin, en plus, surtout quand on voit la situation des divers établissements dans l'enseignement supérieur francophone. Enfin voilà, je pense qu'il y a cette volonté vraiment de pouvoir changer les choses dans la mesure où... Enfin, je ne dis pas qu'ils sont obligés, mais ce serait dommage pour l'université...
Source d'inspiration plus qu'importante, mais pas contraignante. C'est Soyons ça. Clairs, en tout cas, le 10 mars, pour ces tables libres, les cours et les activités à l'ULB sont suspendus pour vous inciter, allez-y, à aller participer à cette table libre où vous aurez la parole pour co-construire l'avenir de demain, ULB... demain, ici, on ose. Ça, c'est le slogan qu'on voit placardé sur les murs de l'université. Demain.ulb.be. Merci beaucoup, Noah Boundoula, d'être venu prendre un peu de votre temps pour nous donner votre sentiment par rapport à votre engagement, parce que c'est un engagement personnel aussi, quand même.
Oui, quand même. Je suis créateur de contenu sur les réseaux. Il y a ce truc où, c'est quand on accepte des collaborations, parfois, il y en a qui sont un petit peu moins éthiques. Sauf que moi, comme je fais de l'actualité, comme je fais de l'information, il y a ce côté où si on me suit, c'est qu'il y a une certaine confiance qu'on m'accorde et je me dois de bien choisir les personnes et les institutions avec qui je collabore. Et ce projet, comme je l'ai dit en tout début d'interview, il correspond tout à fait à ce que je fais déjà. Et c'est un engagement personnel. Alors, personnel, oui et non, mais c'est plus professionnel aussi, je pense. L'engagement professionnel, il compte énormément dans la mesure où, si je m'engageais par exemple avec Coca-Cola, ma crédibilité, je la perdrais pas mal. Mmh. Mais là, en m'engageant avec ULB, sur ce projet ULB demain, je suis quasiment sûr que je ne suis pas devenu quelqu'un de moins crédible parce que j'ai participé à ça, pas du tout.
Donc, au contraire, à nos yeux en tout cas. Merci Noah Boundoula, merci à Skip.
Merci à vous.
Voilà, c'était Noah Boundoula, alias Askip, étudiant à l'IEX en deuxième année de communication. A priori, on a plutôt tendance à promouvoir des gens de l'ULB sur cette antenne, mais ici, c'est quelqu'un d'une autre école de communication qui est venu faire part de ses avis sur ce processus d'assemblée libre qui va se mettre en place, qui se met en place pour l'instant du côté de l'ULB. Pourquoi ? Parce que c'est un créateur de contenu qui va doper sur les réseaux sociaux, genre Insta, TikTok, le processus démocratique de réflexion sur l'avenir de l'ULB. Et c'est à ce titre que l'ULB a décidé d'engager des externes dont il est, ou preuve d'ouverture d'esprit, s'il en est, Noah Boundoula, donc alias Askip, qui était notre invité du jour. Je vous rappelle que pour participer aux diverses étapes de ce processus des assemblées libres de l'ULB, vous pouvez aller sur le site dédié, à savoir demain.ulb.be. Ici, on ose, ULB demain, ça c'est le slogan. demain.ulb.be pour en savoir plus, pour participer entre autres au sondage, pour avoir les dates des étapes successives qui permettront donc à l'adoption de ces recommandations pour la fin de l'année académique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Au revoir.